Bon, j'ai intitulé ça ma communication territoire et développement vers des approches intégrées de développement soutenable. Alors, tous les mots qui sont ici posent question et en tous les cas posent question en France. La notion de territoire, on viendra dessus. Qu'est-ce que j'entends par la notion de territoire? Comme tout le monde en parle, tout le monde parle de politique territoriale, de territoire, de développement territorial, ça vaut le coup qu'on en discute. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette notion-là? La notion de développement, parce que de loin en loin, en France, dans la politique de la ville, on voit surgir la notion de développement, puis disparaître. Hein, il y a des cycles comme ça. Développement social des quartiers, DSU, ensuite. Puis après, ça a disparu. Et puis après, c'est réapparu avec la circulaire Jospin. Puis ça a redisparu. Personne ne parle de développement. Donc, et puis, le sous-titre, vers des approches intégrées de développement soutenable, qui peut apparaître un peu abscons, c'est l'intitulé européen de ce que nous appelons ou nous voulons appeler les politiques de la ville et qui prendra en compte la dimension environnementale en particulier. Si vous regardez tous les textes qui ont été élaborés, et d'ailleurs dès 19, je dis pas de bêtises sur les dates, dès 1993, avec le sommet des villes organisé par Jacques Delors, alors président de la Commission, on avait commencé à mentionner ces fameuses approches intégrées de développement soutenable. Moi-même, j'étais engagé dans un réseau qui s'appelait Quartier en crise, qui avait eu pour initiative la France, pour quand même rappeler les choses. Les Français ne sont pas complètement et toujours à la traîne. À cette époque-là, sous les auspices, ça remontait loin en arrière, sous les auspices de la CNDSQ, à l'époque où Sylvie Arburger était. Vous voyez? Oui, mais le développement durable, ça nous ramène pratiquement autant en arrière. On découvre des choses qui sont très vieilles. On retrouve des vieilleries. Et à l'époque, on avait imaginé un réseau d'experts. Et on a voyagé un peu partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Israël, pour aller voir ce qui se faisait sur les quartiers. Donc, il y a une vieille histoire de la France dans ce domaine-là, d'initiatives qui ont été prises par la CNDSQ à l'époque, l'ADIV ensuite, financées, sans financement européen au départ, il faut le souligner, ensuite avec des financements européens, qui a amené la réflexion de Jacques Delors en 1993. Ce fameux sommet des villes, qui a été l'origine de ce que l'on a appelé le programme Urban, lancé en 1994, Urban 1, puis Urban 2. Donc, vous voyez, Cocorico, nous sommes les plus beaux, les plus grands, les plus forts, nous avons initié plein de choses en Europe. Et dès cette époque-là, la notion de politique de la ville, si vous cherchez en Europe, vous ne trouvez pas de politique de la ville, vous trouvez des approches intégrées de développement soutenable. Vous trouvez ça notamment dans les rapports préalables au Forum de Vienne de 1998. D'ailleurs, le rapport, je vous conseille de le reprendre et de le relire, c'est le meilleur rapport qui a été produit en Europe sur ce qu'on pourrait appeler le développement urbain soutenable pour les villes. Avec les quatre, le rapport c'était la communication de la Commission préparatoire au Forum de Vienne en Autriche, de 1998. Donc, ensuite, alors, ça s'appelait Cadre européen pour le développement urbain soutenable, un truc comme ça, le titre, mais vous le retrouvez sur le site de la Commission. Et dans ce rapport, il y avait quatre volets qui étaient admirablement bien développés en autant d'actions. Sur la dimension économique, sur la dimension sociale, sur la dimension environnementale et quatrième volet, sur la question de la gouvernance. C'est un document, à mon avis, c'est le meilleur. Depuis, on n'a fait que des resucés de ce texte-là de piètre qualité. En plus, moi, j'ai participé aux resucés de piètre qualité, donc je défends pas mon beefsteak. Et rappelez-vous que tout de suite après 1998, il y a eu le fiasco de la commission Santerre. Alors là, la France y était pour quelque chose, hein, puisque notre commissaire, une de nos commissaires, a été épinglée dans cette affaire. et qu'on a décidé que l'Europe se recentrerait sur son métier. Il a fallu attendre quelques années et qu'on redécouvre ces textes-là, et notamment la communication de la Commission en 2006, juillet 2006, sur les villes, la compétitivité et la cohésion sociale, et puis la fameuse charte de Leipzig de l'année dernière, 2007. Donc on a une histoire, et dans ces documents que je viens de citer rapidement, la notion d'approche intégrée de développement urbain soutenable, j'ai fait tomber l'urbain parce que je pense que ça s'adresse, qu'on soit dans l'urbain ou pas dans l'urbain, c'est pareil. Ça évitera toutes sortes de débats sur le rural qui est toujours sous-estimé et maltraité. Non, ça s'adresse à tout le monde, à tous les territoires. Alors bon, 5 points dans mon exposé. Bon, le développement soutenable, on va essayer d'aborder un peu ces questions-là. La question des territoires, et je rapproche ça de la notion surtout américaine de communauté, donc la notion de community. Ce que je développerai en point 3, c'est comment on passe d'une manière de faire la ville au faire avec, coopération et coproduction. Quatrième point, c'est quelque chose que je suis en train de développer à la suite de programmes auxquels je participe en Europe, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique avec les Québécois et les Canadiens, et puis en Afrique. C'est qu'est-ce qu'on entend par territoire défavorisé. Dans le document qui a été publié dans la revue de la DIACT, documentation française en deuxième semestre 2007, sur la prospective de 2030, j'ai laissé un petit article qui s'appelle « Les territoires délaissés entre euphémisme et caricature ». Je pense qu'on pratique, et particulièrement en France, à propos de ces territoires, à la fois l'euphémisme, quand on parle de territoires sensibles, on est dans l'euphémisme merveilleux. Et quand on parle de ghetto, alors là, on est dans la caricature totale. Donc, on se balade entre euphémisme et caricature. Et je pense qu'on aurait intérêt... Bon, j'appelle ça, moi, plutôt territoire délaissé. Et puis, je passe au territoire du recyclage. Je pense qu'il y a peut-être à creuser, à l'époque du développement soutenable et durable, à creuser cette notion de quartier ou de territoire du recyclage dans nos villes. Et puis... terminera sur quelques enjeux européens et internationaux. Alors, développement soutenable, quelques repères, on les avait mentionnés tout à l'heure, mais c'est une vieille histoire, hein, avec la CEPAL en Amérique latine, la CNUSED, le PNUD, le Club de Rome 68, le rapport Meadows sur les limites de la croissance, toutes choses qu'on a bien connues. La notion de développement, référence essentielle à François Perroux, qu'on a complètement oublié. Il y a bien démarqué ce qu'était la croissance et ce qu'était le développement. Je donne une petite citation de Perroux dans la prochaine diapo. On a oublié aussi ce qu'était la notion d'éco-développement avec Ignacy Sachs, qui a anticipé sur le rapport Brundtland, sur le développement. Publication du rapport Brundtland dans les références, donc notre avenir à tous, autour de la notion de développement soutenable. Que, bon, je dis ça rapidement entre parenthèses, je préfère soutenable à durable, je préfère la traduction bête et méchante de sustainable, et peut-être qu'il vaudrait même mieux parler de développement désirable, pour se mettre un petit peu de désir et d'envie, c'est pas mal. Création de l'OMC, je cite aussi, parce que ça fait partie aussi, à l'échelle de la planète, de quelque chose d'important. Et puis, en parallèle, le consensus de Washington. La fin du consensus, c'est 99, paraît-il, dit la Banque mondiale. Le consensus de Washington, c'était de dire, en gros, on en a marre des États, on en a marre de la régulation étatique, laissez la place au marché, le marché pourvoira à tout, et donc les recommandations du FMI et de la Banque mondiale, notamment vers les pays tiers de l'Europe, et notamment les pays dits sous-développés ou en voie de développement, c'était de dire, eh bien, écoutez, laissez parler le marché, et puis tout ira mieux pour vous. On est, heureusement, à la fin de ça. C'est pas mal. Troisième point, les grands événements. L'adoption d'un indicateur dont on a du mal à faire passer dans les mœurs en France, mais aussi à la Commission européenne, l'IDH, l'indicateur de développement humain. Je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. La conférence de Rio, la conférence de Kyoto, Habitat 2 à Istanbul, et puis le Forum mondial Porto Alegre. Voilà, je fais un rapide repère parce qu'il faut se remettre en tête que plein de choses ont été dites, qui Il faudrait aller creuser, on n'a pas le temps, mais... À surveiller dans les années à venir. Donc, le mouvement international, pas besoin de rappeler plein de choses. Mais aussi, peut-être, j'y pensais tout à l'heure quand vous avez présenté votre revue électronique, qui est en français, pensez à la mettre en anglais, en espagnol. Il y a beaucoup de... notamment au Québec, les Québécois font l'effort, ils sont juste sous la vague américaine et anglophone, ils font l'effort d'écrire en anglais, en italien, en espagnol et en français... Et ils ont des revues comme ça, électroniques, et je pense que, compte tenu de la défaillance française et de la défaillance du français, puisque pratiquement dans les organisations internationales, on ne parle plus le français, on ne parle plus que l'anglais, je pense que c'est important de pouvoir que nos choses françaises soient traduites dans les langues d'autres pays pour qu'on en ait connaissance. Sinon, on n'est pas lu. À part les francophones, donc les francophones aujourd'hui, ce sont les Québécois, les Wallons, la Suisse romande, la France, et puis le Maghreb, oui, pour plus très longtemps. Avant, nous avions les Espagnols, les Italiens, les Portugais. Maintenant, au-delà de 45 ans, on a encore des gens qui parlent le français. En dessous, ils parlent tous anglais. J'étais par exemple à Turin il y a deux semaines pour un colloque sur les villes qui ont reconversion industrielle. Normalement, il y avait des Français qui devaient être là, notamment des Français de Saint-Étienne. Ils ne sont pas venus parce que la conférence était en italien et en anglais, pas de français. Débrouillez-vous. Donc on ne vient pas parce qu'on ne parle pas notre langue, on ne vient pas. Mais je pense que là, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on reprenne un peu les choses en main. Et puis il y a des thématiques... qui sont explosifs hein, sur les questions de démographie, on a vu les ressources alimentaires, l'énergie, et surtout la question de l'eau. Nous sommes en plein dans les contraintes aqueuses de part et d'autre de la Méditerranée. Je travaille beaucoup avec l'Algérie qui a un fric fou, qui a remboursé sa dette, qui vit sur l'or avec son pétrole, son or noir, a un problème terrible d'eau. Les nappes phréatiques sont descendues de 10 mètres à 100 mètres dans certaines régions. C'est terrible. Comment on va... D'ailleurs, comment il s'appelait le sociodémographe Alfred Sauvy l'avait pointé en 1930 que la question des migrations, ça serait lié à la pénurie d'eau. On y est, il faut prendre ça en compte. La dimension européenne, mais là, je crois que... Je ne vais pas insister trop, mais nous avons, j'en ai rappelé quelques éléments tout à l'heure, mais nous avons la chance d'avoir un programme d'échange, de transfert de connaissances, de capitalisation, maintenant qui passe à une phase plus ingénierie, on pourrait dire, puisque le nouveau Urbact 2, avec 24 réseaux, va faire aussi des sortes de prestations d'ingénierie auprès des villes pour élaborer ce qu'on appelle des LAP, Local Action Plan, des plans d'action locaux, élaborer des groupes locaux de soutien à ces actions. Il y a toute une... Je vous renvoie au site Urbact, c'est pas la peine de... Mais là, vous avez des éléments, même si le site Urbact est pas fameux, il va bientôt changer, il a été amélioré, il sera changé à la fin de l'année, on pense qu'il sera meilleur, mais vous avez déjà là-dessus des éléments essentiel sur ce qui se pratique en Europe, des exemples, des bonnes pratiques. À terme, normalement, dans Urbact, il y aura 400 villes européennes associées. C'est pas rien. Hein. Moi, je me souviens avoir commencé quartier en crise avec 10 villes, 10 quartiers. Donc là, on commence à avoir de la matière, des réseaux, des compétences, des professionnels. Je souligne au passage que pour nous, Français, avec notre histoire sur les quartiers anciens. Le travail que nous avons fait en matière de régénération des quartiers anciens, et ça remonte à vieux, hein, ça remonte au début des années 70, la politique française en matière d'amélioration de l'habitat ancien. Comme le travail que nous avons fait dès les années 74-75, autour de HVS, sur les grands ensembles, nous avons une connaissance, un savoir-faire, nous avons capitalisé des savoirs qui seraient tout à fait bénéfiques pour notamment les nouveaux États membres, ce qu'on appelle les NEM, qui ont les mêmes, qui ont tout à fait ces problèmes-là. Ils doivent traiter les centres anciens, ils ne savent pas trop comment faire. Ils doivent traiter les grands ensembles à la soviétique qu'ils ont eus, ils ne savent pas trop comment faire. Et les expériences que nous avons en France, dans ces deux domaines-là, même si on les décrit, même si les rapports de la Cour des comptes disent que c'est pire, pire que tout ce qu'on fait dans la politique de la ville, il y a quand même des choses tout à fait intéressantes pour voyager depuis des années dans les pays européens. On aurait tort de priver l'Europe de ce savoir. Encore faut-il que nos professionnels, vous, alliez voir les pays nouveaux entrants. Et là, il y a des choses à monter. Aujourd'hui, les pays nouveaux entrants ont des difficultés à absorber les crédits européens, pour différentes raisons, dont les raisons de corruption, mais aussi des raisons techniques. Ils ne savent pas comment on monte des projets, tout bonnement. Et là, il y a certainement un savoir à transférer dans ces domaines. Réflexion nationale, là on tombe sur des histoires qui sont... Moi, je ne suis pas sûr, en lisant les textes concernant la politique de la ville, les écrits de Fadela Amara et autres sur la politique de la ville, que ça se joue bien à cet endroit-là. Je préfère aller regarder ce qui se dit en matière de RGPP ou la commission modernisation des politiques publiques, notamment le texte d'avril 2008, c'est très intéressant, personne n'en parle, on n'en débat pas, on ne débat pas au Parlement, mais c'est là que se passent les choses. C'est là que c'est en train de se modifier. On va essayer de faire des réformes et introduire des réformes. En particulier, peut-être, mais ça c'est un petit peu mon dada, je ne vois pas ce que l'État déconcentré a encore à faire dans nos villes et dans nos régions. Ça nous coûte une fortune. Aucun pays européen n'a un État déconcentré. Que font confiance aux régions et aux villes pour gérer tout ça. Petite chose en passant. Le CNPP ne parle pas de la suppression ou un petit affaiblissement des préfectures de département, renforcement des préfectures de région. Mais on ne parle pas de la suppression. On parle de rebidouiller notre État déconcentré, fusion des DDA et des DDE, suppression des DAS, enfin, après 20 ans, plus de 20 ans de décentralisation. Bon. Et puis, quatrième élément, les initiatives régionales et locales à surveiller. À mon avis, il y a plein de choses à faire sur l'évolution des agglomérations et surtout des régions urbaines. Du côté des anglophones et du côté du Royaume-Uni, c'est plus vers la notion de région urbaine qu'on se projette, c'est-à-dire plus large que nos agglomérations type communauté d'agglomération, région urbaine, c'est à cette échelle-là que se font les choses. En tous les cas, pour nous qui avons plutôt l'habitude des suspendus à l'État, il y a peut-être une réflexion à avoir sur les rapports État-collectivité territoriale et ce que j'appelle les organisations communautaires de base. On appellerait ça la société civile, mais pour être en harmonie avec les Européens, je préfère parler d'organisation communautaire de base, même si ça choque nos oreilles françaises communautaristes. Alors la notion de développement, j'ai plusieurs autres citations, mais celle de Pérou, qui définit bien ce que c'est que le développement. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. Le développement, c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Changement dans les comportements, et changements comportementaux, mentaux et sociaux. C'est pas de produire plus, c'est changer nos manières de faire. Célèbre livre de Certeau, publié en 1981, qui s'appelait « L'invention du quotidien, manière de faire », que je vous recommande, réédité en 10-18. Il y a une mine pour tous nos professionnels. Après, il y a des citations de Greff et de Worms. Je vous donnerai le PowerPoint, donc vous aurez tout ça. C'est pas la peine de vous acharner à copier. Quelques schémas. Il n'y aura pas beaucoup de textes, hein, il y aura des schémas quasiment à présent. Alors, le développement soutenable, après Sachs, Brundtland, plus Amartya Sen, c'était quoi? Rappelons-nous quelques éléments. Le développement séparé de l'économie, du social et de l'environnement avec l'économie qui en impose aux autres secteurs. Si le social et l'environnement n'existaient pas, qu'est-ce que l'économie serait contente? Et oui, c'est une contrainte. L'environnement, c'est une contrainte. Le social, c'est une contrainte. Partout, que ce soit dans le monde capitaliste ou dans le monde soviétique réalisé, l'environnement était une contrainte. Et le social aussi, puisque... Oui, mais l'économie avait liberté de s'installer. Alors, que dit le développement durable? En gros, c'est ben, il faut réencastrer. Alors, c'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire. Et puis, pour réencastrer, il faut pouvoir gouverner ce qui est l'intersection, là. Réguler ça, cette partie-là. Alors, il y faut du politique et il y faut de la démocratie. Alors, c'est tout récent. Tout à l'heure, je critique la fin du consensus de Washington, fin des années 90. Aujourd'hui, tous les rapports de la Banque mondiale ou du FMI, ce n'est pas parce que Strauss-Kahn est patron du FMI maintenant. Oui, c'est trop récent, mais depuis, disons, 7-8 ans, la Banque mondiale et le FMI commencent à introduire, bon, on ne peut pas développer simplement par le marché. Il faut du marché, mais ça ne peut se faire que s'il y a de l'encadrement politique et s'il y a de la démocratie. C'est-à-dire, en gros, la démocratie, dans le discours type FMI ou Banque mondiale, ça veut dire valoriser au mieux les ressources humaines, utiliser au mieux ces ressources humaines, et non pas les détruire. Alors, j'ai essayé de voir comment ça se passe dans ces trois sphères qu'il faut encastrer. Les représente autrement. Voilà, vous avez les trois sphères là représentées par des traits sur une pyramide. Le gros problème que nous avons à résoudre, que ce soit au niveau global, mondial, mondialisé, ou que ce soit au niveau purement local quand on veut faire du développement durable, c'est comment on fait fonctionner ensemble, déjà chacune des phases de la pyramide, le social et l'économique, l'économique et l'environnement, le social et l'environnement. À chaque fois, nous avons là des situations contradictoires. Et ce n'est pas facile de faire fonctionner. Quant à faire fonctionner l'ensemble de la pyramide et la rendre cohérente, économique, social, environnement, c'est le gros de la difficulté. De manière générale, on essaie ou de traiter ou de l'économique, du social, de l'environnement séparément. Parfois, de traiter du social, de l'économique, de l'économie, de l'environnement. Des fois, on ne voit même pas que le social et l'environnement peuvent être contradictoires. On pense que ça va ensemble. Quant à faire fonctionner les trois ensemble, c'est plus difficile. Alors, j'ai essayé de représenter une des faces de cette pyramide autour de l'économique et le social, ce qu'on appelle l'équitable. On est dans la compétitivité, la productivité, fabrication de richesses. Ça, c'est le consensus de Washington. Il faut être productif, il faut être compétitif, il faut gagner des parts de marché, fabriquer de la richesse. On sait tous que ça fabrique du chômage et de l'exclusion. Aussi. Face à ça, il nous faut des politiques dites de cohésion sociale, comme on les appelle en Europe, pour essayer de estomper la question de l'exclusion et du chômage. Pour ça, il faut les financer avec des contributions et des taxes qu'on va prendre sur des richesses. Sauf qu'assez souvent, on va les prendre plutôt sur les pauvres, parce qu'ils sont plus nombreux, et à coût de 1 euro par population nombreuse, c'est plus indolore que de taper sur les riches. Parce que les riches, ils peuvent s'évader. Donc, comment on coordonne ce carré-là? Ce carré-là, finalement, quand on regarde comment ça fonctionne, c'est à l'échelle des territoires, de plus en plus, quand on regarde la situation en Europe, en tous les cas, les pays européens, les États-nations ont plutôt transféré vers les régions et les collectivités locales et villes, la gestion de ces carrés magiques. Et il faut avoir, faut faire des choix dans les villes. Alors certaines villes, par exemple, plutôt sur l'esprit anglophone à une époque, seraient allées vers, il faut d'abord aider les villes pour faire de la compétitivité, recevoir les entreprises, et puis l'argent, la richesse va ruisseler jusqu'aux pauvres. Nous, du côté continental, allemand, français, on était plus vers dire, il faut plus de politique de cohésion sociale. Donc, on a là des possibilités assez larges, un éventail de choix à mettre en œuvre. Il faut le mettre en œuvre, mais pour pouvoir le mettre en œuvre, on oublie toujours que derrière, pour pouvoir mettre en place une politique d'équilibre, la place du curseur ici, il faut des coalitions sociales et politiques sur lesquelles s'appuyer. Si vous avez une coalition politique qui dit « Attendez, moi, je préfère qu'on aide les entreprises et puis les pauvres, ils ont qu'à se débrouiller », ben on aura une politique qui va, où le curseur va plutôt aller vers le haut. Ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, on sent bien qu'au niveau local, nous avons à gérer cette question-là et à veiller à quel type de coalition sociale et politique sont prêtes à soutenir telle et telle politique. On vient de vivre les élections municipales. Parfois, il y a eu des changements. Je prends le cas de Saint-Étienne, mais il me vient à l'esprit. Personne ne pensait véritablement que le maire de Saint-Étienne serait battu. Il avait engagé une politique dans un certain sens après pas mal d'échecs. Je représente une autre face rapidement sur le social et l'environnement. C'est le même schéma. Vous aurez ça dans le PowerPoint, ne notez pas. Un schéma un peu différent, c'est la base de la pyramide. Où vous avez là deux types de politiques, des politiques de cohésion sociale ici, politiques de cohésion spatiale. Il faut des contributions et des taxes pour financer tout ça. Et donc il faut que le curseur soit géré entre les deux. Là aussi, il vous faudra des coalitions sociales et politiques. À chacune des faces de la pyramide, vous devez faire appel à des coalitions sociales et politiques qui ne sont pas prêtes. Qui peuvent soutenir tel type de politique, mais qui ne sont pas forcément prêtes à soutenir telle autre politique. Donc tout le jeu de nos instances que j'ai fait figurer comme un cercle, nos instances locales, nos systèmes de régulation, c'est comment on fait tenir ensemble ces différentes coalitions. Rien de moins évident. Alors si vous avez des questions, vous pouvez y aller sur cet aspect-là. En tous les cas, il faut avoir en tête cette dimension-là. Et puis, le cercle du milieu, le cercle-là, c'est en gros comment on régule. Ce n'est pas que du social, ce n'est pas que de l'économique, ce n'est pas que de l'environnement. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est comment on régule tout ça. Par exemple, moi, je suis en train de monter un projet de formation en région Rhône-Alpes qui va couvrir des quartiers, des villes ou des zones rurales. C'est à la demande de la région Rhône-Alpes. On monte une formation qui est sur le développement soutenable, mais le gros de la formation, c'est comment on régule le développement soutenable. On ne s'intéresse pas à savoir comment l'économique fonctionne avec le social ou que le social fonctionne avec l'économique. On se dit comment on gouverne ça à l'échelle de territoire. Et est-ce que nous avons, dans les collectivités territoriales, les élus, les techniciens, à l'université, les chercheurs capables de nous donner des éléments pour pouvoir faire cette régulation. Parce qu'assez souvent, on s'arrête sur le développement soutenable à l'échelle de comment l'économique, le social ou le social et l'environnement fonctionnent. Il faut s'intéresser plutôt à la manière dont se fait la régulation politique. Elle ne se fera pas par le marché, elle se fera par le politique. En Rhône-Alpes, on a découvert, en préparant ce travail, là, qui va démarrer en septembre, cette formation va démarrer en septembre 2009, on a découvert qu'il fallait recruter 600 personnes, puisqu'il y avait le papy-boom qui arrive, après le baby-boom, le papy-boom est là, les nouveaux enjeux, il faut recruter 600 personnes. On va former, nous, par an, 20 personnes. Vous voyez la marge. Il y a du boulot pour beaucoup de gens. Donc, former... J'en viens à la deuxième partie sur les communautés et le territoire. La notion de communauté, moi, de territoire, la définition, je l'emprunte plutôt à la définition des communautés, comme on les entend aux États-Unis notamment, ou au Québec. La notion de community, c'est trois éléments dont vous allez voir que ça colle parfaitement, c'est pratiquement homogène avec la définition du développement durable. D'abord, ce sont des lieux. Dans nos politiques, notamment la politique de la ville, pendant très longtemps, on s'est intéressé aux lieux. On s'est intéressé aux hard, aux bâtisses. On s'est peu intéressé aux questions d'environnement. Et d'ailleurs, les agendas 21, on en parlait tout à l'heure, se sont développés en parallèle de la politique de la ville. C'est foutraque. Partout en Europe, on raisonne, quand on parle de lieux, quand on parle de territoire, on parle d'environnement. On parle d'environnement urbain. Il n'y a personne d'autre en Europe qui fait la coupure entre le bâti et le reste de l'environnement. Alors aujourd'hui, on a, avec du HQE, un milieu à l'habitat, on commence à redécouvrir ces choses-là, mais c'est un peu tardif. Deuxièmement, ce sont des gens. Alors avec la politique de la ville, elle a eu quelque chose d'assez positif, c'est qu'on a réintroduit les gens dans le jeu comme des acteurs. On a commencé. Les thématiques de la participation, c'est vrai que ça a fleuri. Depuis pratiquement 20 ans, aucun texte de la politique de la ville oublie de mentionner le rôle éminent des habitants qu'il faut mobiliser, tout ça. Je n'ai pas dit qu'on le faisait. Mais en parallèle, on a oublié quelque chose, la jupette qui est là. Parce qu'on est très en retard sur le rôle des femmes. On est tous des professionnels, on sait tous que quand on fait une réunion dans un quartier, qui se mobilise, ce sont les femmes. Mais on est incapable de le voir. Je suis administrateur d'un organisme d'HLM à Grenoble, nommé par le préfet. Ça fait 7 ans, je préside la première fois où il y a eu une commission politique de la ville dans l'organisme. Je me bats comme un fou pour transformer la pratique de cet organisme pour en faire un développeur de territoire, développeur de quartier. La dernière mission que je me suis donnée il y a 2 ans, c'était de réintroduire la question du genre, les rapports hommes-femmes. Parce que dans l'organisme, et pourtant c'était les secteurs qui s'en occupaient, c'était plutôt des femmes, la communication, les ressources humaines, la présidente ne voyait pas que, d'abord, 30% de nos ménages dans notre patrimoine, c'était du ménage avec chef de famille et une femme, seule, et que généralement, quand on communique auprès de nos quartiers, qui est-ce qui reçoit la quittance de loyer, qui est-ce qui s'occupe des aides, qui est-ce qui s'occupe de torcher les gamins, qui est-ce qui est prescriptrice du comportement. Ce ne sont pas les mecs sont absents. Et on continue de signer des baux. Vous devez vous comporter comme un bon père de famille. Le bon père de famille, il n'est plus là. Changer ça, c'est une montagne. En France, on a beaucoup de retard dans l'introduction de cette question. De cette question du genre et des rapports. Ce n'est pas du féminisme, hein. C'est du marketing. Moi, dans cette boîte, je leur dis, écoutez, je ne suis pas là en train de vous faire un propos féministe pour plaire à je ne sais pas qui. Je suis là pour vous dire, quand on veut que notre boîte fonctionne, nous devons parler à celles qui reçoivent les messages et exclusivement à celles-là, dans une logique marketing et marché. Nous devons faire fonctionner nos affaires. C'est extraordinairement dur de le faire passer. Et pourtant, les personnes en charge sont des femmes. Et parfois, on me dit, mais arrête de nous bassiner avec les femmes. Je dis, mais bon, la ménagère de 50 ans, c'est ça. Hein? Troisième élément, les institutions. Alors ça, on en parle beaucoup, notamment en France, parce que notre politique de la ville, Dieu sait si elle est institutionnelle, institutionnalisée. Hein, nos usines à gaz, c'est de l'institution à puissance 10 ou 100. Mais on ne parle pas des institutions. Dans les institutions, moi, je mets la notion d'économie. Je renvoie à l'institution à la notion de convention, comme on parle, quand on parle en économie. Une entreprise, c'est un système de convention. C'est une institution, une entreprise. Mais on parle peu des jeux, des rapports, des organisations qui sont mis en place. Et je pense qu'on devrait plus en parler. Je reprends mon exemple de l'organisme dans lequel je suis administrateur, Actis, l'organisme de logement social. Pour moi, la politique de la ville et le rôle de cet organisme dans la politique de la ville et au sein de la commission politique de la ville qui était mise en place dans le conseil d'administration, essentiellement, c'était de foutre en l'air l'organigramme de l'organisme et de le substituer à un autre organigramme. Et pas de savoir si j'allais refaire les façades, nettoyer mieux les entrées, tout ça. C'était comment faire un organigramme, une structure de travail qui fonctionne compte tenu des difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Ça fait hurler. La première réunion des personnels, je me suis payé du luxe comme ça, le directeur était là, je me suis payé le luxe de dire... D'abord, on va mieux payer les gens sur le terrain. Imaginez un administrateur qui dit ça dans un organisme. Il m'a dit, la prochaine fois, tu m'en parles avant que tu vas faire une déclaration. C'est vrai qu'il faut plus payer les gens qui sont en première ligne et pas les gens qui sont dans les bureaux. Mais ça, si vous regardez toute l'organisation publique, qui a affaire avec la complexité du monde? Est-ce que ce sont les gens dans les bureaux qui reçoivent les documents à peu près bien calibrés dans leur domaine de compétences, ou est-ce que c'est les personnes sur le terrain qui ne savent pas si, voyant un gars en face d'eux dans la rue, s'il leur sort la main de la poche, c'est pour serrer la main ou pour sortir un couteau ou autre chose? C'est ça la complexité. On met en présence du terrain des gens qui sont souvent très mal qualifiés et mal payés. On a intérêt à réfléchir à toute cette réorganisation. C'est ce qu'on a commencé à faire dans notre organisme. Mais je ne vous dis pas, il faut des années pour bousculer une pyramide des salaires et des traitements dans un organisme comme ça. En plus, on a des agents privés, on a des agents publics. Mais c'est ce qu'il faut faire. Certainement, c'est ce qu'il faut faire. En termes de dérive, ben voilà ce qui se passe dans nos quartiers. Les lieux, ils se dégradent, les gens s'en vont, et on a des résistances et des régressions institutionnelles. Quand un quartier va bien, c'est que tout ça est un peu en phase lieu, gens, institution. Nos territoires vont mal parce que tout a dérivé dans des sens très différents. Donc, retrouver de la cohésion, c'est remettre en phase, pas sur le même modèle qu'il y a 30 ans, mais remettre en phase ces lieux, ces gens. Autre chose sur la là, c'est à l'échelle, j'ai pris l'échelle quartier. Il faut prendre aussi l'échelle de nos territoires urbains, agglo, région urbaine. Le système que nous avons connu dans les années 60, jusque dans les années 70, c'était un système, un attracteur de population. On attirait de la population dans les villes, et puis progressivement, on avait la première couronne, la deuxième couronne qui se développait. Et puis restait derrière nous, en gros, dans certains morceaux des quartiers anciens, des zones de quartiers insalubres. Politique de rénovation et de restauration de l'habitat ancien. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Phénomène de suburbanisation, apparition, peut-être pas en France, je raisonne à échelle européenne ou américaine, ça, des quartiers fermés, qu'ils appellent gated communities, qu'on pourrait appeler les ghettos de riches, les quartiers fortifiés, des territoires délaissés, des ghettos de pauvres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les frontières ont changé. Nos frontières, à l'époque, étaient plutôt à la périphérie. C'était relativement simple. Là, les frontières, elles traversent nos territoires. Il faut réfléchir à tout ça parce que c'est 500 ans de pensée politique qui s'effondre. Et c'était quoi, cette pensée politique? C'est Machiavel, Hobbes, qui disait en gros... Les gens des villes ont plutôt tendance à se battre entre eux. Pour les calmer, pour assurer la paix civile, il faut désigner à l'extérieur un ennemi menaçant, des barbares et tout ça. Fortification, ça donne naissance à deux types de services dans nos villes. Pour l'extérieur, l'armée, pour l'intérieur, la police. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus les frontières à l'extérieur? Quand les frontières traversent la ville. Et d'ailleurs, il y a tout un débat. On voit bien dans RGPP, là. Fusion, gendarmerie, police. On le voit bien, on l'a bien vu le 11 septembre. Elle était où, la frontière? Moi, j'étais au Québec, j'étais à Montréal le jour où il y a eu les tours. Première réaction des Américains, à la télé canadienne, c'est la faute des Canadiens, ils n'ont pas surveillé les aéroports. Tout le monde était persuadé que, en plus, ça venait de chez les Français, donc les Québécois, de Montréal. Jamais ils ont pensé que l'attaque venait de l'intérieur de leur territoire. Et que donc la notion de frontière avait volé complètement en éclat. Ils étaient là, ils sont partis des territoires américains, ils pourraient attaquer le territoire américain. Ça a renversé complètement une conception de la guerre. Enfin, ils n'en ont pas peut-être tenu compte suffisamment jusqu'à présent, mais bon, toujours est-il que c'est ça. Là, je passais rapidement sur l'évolution de nos régions urbaines, sur aussi nos notions de ruissellement, territoires branchés et débranchés dans les régions urbaines, entre les zones branchées et les zones débranchées, comme on les appelle. Zone branchée, ben c'est ce, je sais pas, c'est Roissy. Zone superbement branchée, mais est-ce que Roissy ruisse? Hein? Si, ça peut être une zone branchée comme ça, une zone bobo, ça peut être. Je prends Roissy parce qu'il y a une telle masse d'argent, de ressources qui passent par là, mais est-ce que ça ruisselle vers les zones débranchées de Seine-Saint-Denis? Voilà. Oui. Mais ça, cette question-là, c'est une question qui est très forte, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, ce qu'on appelle le trickle-down, c'est le ruissellement économique. C'est ce que Margaret Thatcher avait défendu en disant, c'est pas la peine de faire des investissements dans ces quartiers rouges débranchés. Il faut aider les zones branchées à accumuler des ressources, à attirer des ressources de l'extérieur. C'est le modèle, par exemple, irlandais. On attire des ressources avec du dumping fiscal. Et puis, l'argent va ruisseler jusqu'aux pauvres. Hein, c'est ça. Trickle down, ruissellement. Alors, connaissant bien les Irlandais sont toujours... sont comme les Polonais ou les Juifs polonais d'une époque. Ils ont beaucoup d'humour. Les Irlandais disaient... Il y avait une autre figure, c'était de dire... Quand la marée monte, la marée des affaires monte, tous les bateaux qui étaient couchés sur la grève sortent de l'eau et flottent. Et les Irlandais qui ont beaucoup d'humour, ils disaient « Oui, mais nous, on a la coque crevée et on restera au fond. » C'est un peu ce modèle-là, quoi. Ça marche bien quand on y croit. Si il faut absolument canaliser. Une des meilleures canalisations du trickle-down et des ressources, c'est l'impôt et les taxes dont on veut se priver, ou les grandes politiques des pays consensus de Washington aidant étaient de dire arrêtez de mettre le fardeau de l'État ou des collectivités locales, des taxes et tout ça, supprimer les taxes. Mais c'est ça qui nous permet de canaliser et de redistribuer la richesse. Hein, ça, c'est un enjeu important dans nos villes. Comment on redistribue? Par quoi? On peut faire de l'attraction et du développement, mais l'instrument principal des collectivités territoriales, c'est les taxes et l'impôt. On se raconter l'histoire. Alors là, j'ai repris des schémas qui commencent à dater, mais c'est le passage du faire la ville, qui était notre approche dans les années jusqu'aux 30 glorieuses, où on fabriquait, notamment en France, de la ville nouvelle à la périphérie, au faire avec, où on passe d'une logique de faire à une logique de coproduction. De production à la coproduction. Tout ça est soutenu aussi par le développement de nos économies vers des économies de services. Les économies de services, la caractéristique essentielle des économies de services vers lesquelles on va, sont des économies de coproduction. On doit coproduire avec les utilisateurs. Que ce soit des services marchands ou d'autres services. On peut dire que, par exemple, la sécurité est un service qui nécessite une coproduction, pas uniquement de la police, de la justice et des gendarmes, qui nécessite la participation des victimes et qui nécessite la participation des délinquants. Le délinquant n'est pas un être passif dans la politique de sécurité. On le considère toujours comme un être passif sur lequel il faut... Non, c'est un être actif, il commet un certain nombre de délits, mais il faut construire le système de sécurité avec le délinquant. C'est en ce sens-là où je dis on est passé à des systèmes plutôt de coproduction. On était dans des systèmes relativement linéaires, et c'est là où on voit tous les enjeux, ce qu'on appelle le transversal et tout ça. On passe à des systèmes qui sont simultanés, dans lesquels on avait très peu d'acteurs, et aujourd'hui, il faut rajouter plein d'acteurs. C'est les acteurs qui sont en rouge ici. Et les faire travailler ensemble à l'élaboration de projets pour les territoires. Mais ce passage-là, qui semble anodin, de l'horizontalité au vertical, c'est ce qui pose toute la question, ce qu'on appelle les approches intégrées. Comment transformons-nous les manières de faire des gens pour qu'ils travaillent ensemble? Là, dans le système de fabrication de la ville, c'était relativement simple. C'était des processus très séquencés et quasiment où chacun venait à la queue-leu-leu. Là, il faut faire travailler ensemble des acteurs plus des acteurs qui n'étaient pas présents avant, pour les faire travailler ensemble et produire des projets. Alors ça suppose un certain nombre de choses. J'ai classé sous trois formes de coopération. ce qu'on appelle la j'appelle ça coopération conflictuelle. Aujourd'hui, j'appellerais ça la coopétition. C'est des économistes qui ont beaucoup phosphoré. Coopération conflictuelle, c'est tiré de Pérou, quand Pérou parlait des luttes coopération, quand il parlait des stratégies de développement. Lutte coopération. Alors j'ai nuancé, j'ai mis coopération conflictuelle, parce que la coopération s'est toujours présentée comme des gens gentils qui ont envie de travailler ensemble. Hein. C'est pas ça, la coopération, c'est du conflit, c'est de la lutte. Donc on pourrait dire coopétition. À l'échelle des territoires, et ça, on l'a vécu en France, mais dans d'autres pays, depuis très longtemps. Ça a été toute la stratégie de fabrication des intercommunalités. Ça remonte à la fin du 19e, et on peut considérer qu'on a virtuellement, après un siècle, réalisé notre chose. On a créé des territoires, même s'ils sont insuffisants en termes d'intégration, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes. On n'est pas encore passé à des élections au suffrage universel, mais on a... D'autres pays ont pratiqué autrement, ils ont fusionné. Si on prend l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, ils ont fusionné les communes. C'est le fameux texte de loi français de 1970 qui n'a jamais été appliqué sur la fusion des communes. On a procédé de manière plus souple, plus intelligente, comme on sait faire en France, par des systèmes de coopération, et on en est là. Ça, c'est quasiment fini. La chose, elle est réalisée, il faudrait l'élargir à l'échelle des régions urbaines. Et peut-être, mais là, ça fait l'objet d'une discussion entre nous, ça fait d'ailleurs l'objet d'une discussion sur la RGPP, est-ce qu'il faut mettre en place des conseils élus ou est-ce qu'il faut continuer à fonctionner avec des délégations de compétences sur les compétences à l'échelle régionale et garder d'autres dans la proximité. Toujours est-il que le système est fait. Je voudrais attirer votre attention sur ce système de coopération. Ceux qui ont le plus perdu dans ce système de coopération, ce sont les élus. Les petits élus, mais aussi... ils sont tellement peu nombreux, ceux qui règnent au sommet. Mais tous les élus ont perdu du pouvoir. En revanche, nous tous, techniciens dans les collectivités territoriales, nous avons tous gagné au change. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'est à peu près bien passé, parce que quand vous êtes dans un service des eaux, vous faites de l'intercommunalité sur l'adduction d'eau, eh ben vous allez travailler avec l'autre commune ou travailler avec l'intercommunalité. En tant que technicien, vous gagnez en aura, en reconnaissance et tout ça. Et on peut prendre tous les domaines. Ce qui est intéressant, c'est que... Donc la coopération, c'est là, vous voyez, cette coopération, c'est traverser les frontières. Toute cette coopération qui prend naissance là, c'est plutôt une coopération de réseau. Faire de l'adduction d'eau, de l'assainissement, du transport, des choses comme ça. Voire créer quelques lieux d'équipement, le collège, le lycée. Et puis, alors tout le monde veut un collège ou un lycée, personne veut la décharge d'ordures. Mais bon. Donc il y a des coopérations conflictuelles à ce niveau-là, mais bon. Oui, oui, à l'échelle des syndicats. Deuxième type de coopération, elle est plus récente. Elle date en gros des années 60. C'est ce qu'on appelle la coopération verticale. Avec la floraison des contrats. Ce qui est intéressant, c'est que ces contrats étaient souvent des contrats sectoriels. La seule distinction, c'est en gros la politique de la ville qui a eu une ambition de sortir du sectoriel et faire des contrats globaux. Ou les approches type agenda qui disent qu'il faut faire des contrats globaux de développement et de développement environnemental. Là encore, c'est très intéressant, c'est que les élus perdent au change dans cette affaire, mais que les techniciens y gagnent. Un chef de projet qui débouche le cabinet de la mémé ou va négocier dans le cabinet du ministre, c'est pas le même technicien, quoi. Il gagne beaucoup au passage, en connaissance. Donc, ça a relativement bien fonctionné, sauf que, troisième coopération où ça a mal fonctionné, où ça fonctionne mal partout, non seulement en France, mais en Europe, c'est l'horizontale. Ce que les Québécois appellent le silo, le mur à mur, les tranches de cake, comme disait Delarue dans son rapport sur la relégation. Comment on traverse ces frontières? Et là, autant les élus sont favorables à une approche intégrée, horizontale, autant ceux qui résistent, ce sont les techniciens, pour des raisons très justifiées de déontologie. Comment moi, éducateur spécialisé, je ne vais pas travailler avec un flic, et j'en passe, et je ne vais pas remettre mes affaires à la justice, pour des tas de raisons. Logique professionnelle, logique culturelle, logique déontologie, mais aussi routine, corporatisme et bureaucratie. Hein ? Bien sûr. Mais si on veut faire de l'intégration, il faut faire bousculer un peu ces frontières-là. Et donc, on a les pires difficultés, mais ce n'est pas qu'un mal français. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec le Canada, on est dans des programmes de recherche. Une des recherches financées par le système fédéral canadien, c'est sur comment on bouscule le mur à mur et les silos. Comment on fait coopérer et intégrer des politiques. Alors, contourner des rigidités, ça, c'est le petit modèle européen dans lequel nous sommes tous. Là, c'était la situation hier, État central, province commune. Ça, c'est le système auquel qu'on voudrait atteindre, enfin certains, pas tout le monde, Union européenne, région nationale et région transfrontalière, aire métropolitaine ou région urbaine, et puis territoire de proximité. Alors, on en est plutôt là. Hein, on en est plutôt dans un entre-deux, notamment en France. Hein, oui. On est en période de transition. Mais on voit bien que les passages qu'il faudrait faire, les transferts de compétences entre niveaux intermédiaires. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des politiques qui ont vu le jour depuis 20 ans en Europe, ou au niveau national, reprenant certaines indications européennes dans les États qui n'avaient pas pris ces initiatives, pas comme la France qui avait déjà pris des initiatives comme ça, c'est que toutes ces politiques-là se situent plutôt à l'échelle des territoires qui vont être formatés. Une autre politique de la ville, normalement, est là pour agir à un niveau d'aglo et à un niveau de quartier, pas à un niveau communal. Alors c'est vrai que c'est regrettable, parce que les derniers CUX ont vu réapparaître un foisonnement de CUX communaux. Là où entre 2000 et 2006, on n'avait pratiquement que des CUX intercommunaux ou de communautés. On a lâché l'affaire, mais... Et c'est peut-être aussi là que la politique de la ville perd. Parce qu'un des aspects de la politique de la ville, on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, la politique de la ville était là pour fabriquer des réformes. Elle est considérée comme étant toujours un surcroît de complexité, ou de complication plutôt que de complexité, alors qu'elle était là pour fabriquer des réformes et transformer nos manières de faire. C'est un peu le paradoxe, hein, d'un retournement. Alors, j'avais présenté ça à Rouen, la fameuse usine à gaz. Alors, si vous superposez les territoires balkanisés, des systèmes, il faudrait présenter ça en trois dimensions, là. Et puis des territoires délaissés, là, vous avez des gros. Vous avez un gros flux qui vous amène des crédits. Puis peut-être que ce qui tombe sur les territoires, c'est peut-être pas beaucoup. C'est-à-dire que la machine est en train de manger les crédits d'une certaine façon. Alors ça, c'est plutôt provocateur, pour lancer, tout le monde est au courant, mais... Non, le préfet m'a dit, non, vous ne pouvez pas dire ça, quand même. Je venais lui dire que je voulais le supprimer. Il m'a dit, je ne pourrais plus vous nommer au conseil d'administration de l'organisme. Alors, coopération, coproduction, je voudrais aussi insister sur des aspects. Qu'est-ce qu'on appelle programme intégré de développement urbain soutenable ? Si c'est écrit par le haut, par Paris, par la DIV, ou par autre chose, ou par Bruxelles, ça va être ça. Il faut faire du programme intégré de développement urbain soutenable. Sinon, vous n'avez pas de financement. On va dire, après, il faut que vous négociez des contrats, ou des conventions et des agréments. Ensuite, vous essayez de réunir les partenaires. pour coproduire quelque chose. Ensuite, vous achetez sur le marché du savoir-faire, vous créez une équipe, une organisation collective, vous élaborez un projet, vous essayez de tenir compte pour ce projet un peu de l'atmosphère locale, ne faites pas un projet passe-partout qu'on pourrait voir partout, puis vous rencontrez le territoire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la démarche procédure. Si vous renversez le point de vue, vous partez des territoires, vous remontez jusqu'à un jour prochain, je ne sais pas quand, à Jérusalem, on trouve le programme intégré, vous avez le processus. Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux ensemble qui doivent fonctionner. Hein, c'est comment ça fonctionne. Alors, moi, j'ai appelé ça l'algorithme du jardinier. Hein. Parce que quand vous regardez bien, je donne ça aux étudiants pour qu'ils retiennent bien le truc. C'est que c'est comme si vous êtes dans votre jardin. Vous avez un terroir, une parcelle de jardin, une à l'ombre, une au soleil, tout ça. Vous avez des plantes, quelques semences. Vous avez l'atmosphère, à tel moment de l'année, il pleut, il fait froid, il fait chaud et tout ça. Et puis, ce qui compte dans tout ça, c'est quand même le savoir-faire, c'est la main verte du jardinier ou de la jardinière qui est capable d'agencer toutes ces choses. Et ce qui est intéressant en Europe, mais qui est valable pour la France et les autres pays, on se pose toujours la question de qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique. Ben, une bonne pratique, c'est ça, quelque chose qui est capable d'ajuster territoire, projet, atmosphère, avec un savoir-faire. Et qu'est-ce qui est transférable? Le territoire n'est pas transférable. Le projet ou l'idée de projet est transférable, mais on est déjà dans le savoir-faire. L'atmosphère n'est pas transférable. Berlin, ce n'est pas Marseille. Et donc, c'est pour ça que ça explique aussi tout le travail qui est fait dans des programmes comme URBACT, mais tous les programmes d'échange qui ont vu le jour, c'est qu'il faut échanger nos savoir-faire, capitaliser sur ces savoir-faire, c'est ça qui est important. Mais on peut imaginer ce que vous faites, vous, IRDSU ou autres, ou d'autres réseaux, c'est comment on échange et comment on capitalise les savoir-faire, ces compétences-là qui sont là. Alors, ça peut être représenté autrement, voilà, une autre façon de représenter notre affaire. Voilà. Si vous avez tel... Hein? Donc, vous avez le territoire, fait de lieux de gens d'institutions, une atmosphère, en violet. Vous élaborez un projet avec quelques acteurs. Vous achetez du savoir-faire sur le marché, que moi j'appelle souvent les conspirateurs. Un conspirateur, c'est... J'ai découvert ça tout récemment, que conspirateurs, c'est ceux qui respiraient ensemble, donc, hein, qui s'accordaient. Et donc, il faut trouver des conspirateurs hybrides, hérétiques, et puis fabriquer ce partenariat et construire des contrats, et on aura l'approche intégrée. Alors, j'en viens à quatrième partie sur ce que j'appelle donc les territoires défavorisés au territoire du recyclage. Comment peut-on sortir d'une approche qui est, à mon avis, un peu trop coincée sur ces territoires vont mal, il faut faire quelque chose, et souvent ce qu'on a, c'est que l'application d'une norme. Moi, je me dis qu'il faut qu'on essaie de repenser le rôle de ces territoires dans la ville. Et on n'en a rien à fiche de la norme. Il faut plutôt se remettre quelle est la place et le rôle de ces territoires. Alors, d'abord, quelque chose qui est important à l'échelle européenne, c'est que assez souvent, nous disons que les villes sont des villes, des zones riches, des territoires riches en Europe. D'ailleurs, c'est ce qui conduit la politique communautaire à dire, bon, il vaut peut-être jusqu'à présent, jusqu'à une période tout à fait récente, de ne pas cibler l'argent communautaire sur les villes. Pendant très longtemps, il était interdit de financer les projets urbains, de rester à la périphérie. Mais l'Europe a du mal, et elle aura toujours du mal à concevoir ce qui se passe dans les villes, tant qu'elle considérera que l'indicateur principal, c'est le PIB. Si vous prenez tous les rapports européens, c'est sur le PIB. Si vous regardez le PIB, les villes sont riches. Londres est ici, en termes de PIB, là vous avez... Bruxelles est très riche, toutes les villes sont riches. Mais si vous regardez Londres en termes de revenus disponibles, Londres se situe ici à peu près, un petit peu au-dessus du... oui, Londres. Non, Londres se situe ici. Revenu disponible, je vais vous l'expliquer plutôt avec l'Irlande. Ça sera plus simple. Ou le Bruxelles, l'Irlande. Voilà, l'Irlande se trouve là. L'Irlande est considérée comme un pays riche aujourd'hui. L'Irlande est riche en termes de PIB, elle est juste derrière le Danemark. Le Danemark est ici, premier pays européen pour la richesse en termes de PIB par tête. L'Irlande est ici. Si vous regardez maintenant le revenu disponible, alors qu'est-ce que c'est que le revenu disponible ? C'est ce qui reste dans le pays, une fois que les gens qui sont venus investir dans le pays ont réexporté leurs ressources. Alors l'Irlande, ben, vous voyez que l'Irlande reste toujours très bas, en dessous de l'Espagne quasiment, en dessous du Portugal, et l'Irlande est ici. En tête arrive l'Allemagne, en termes de revenus disponibles. C'est vrai pour les villes. Le cas type, c'est Bruxelles. Bruxelles arrive juste derrière Londres en termes de PIB. Quand je dis Bruxelles, c'est les 19 communes bruxelloises. Là où ça fait débat tout autour, où ils voudraient s'étendre, mais les Flamands ne veulent pas, parce que Bruxelles est un pays flamand. La région bruxelloise, c'est 19 communes. Si vous regardez le PIB de Bruxelles, c'est très bien, sauf que la plupart des habitants qui touchent ce PIB dans Bruxelles vont habiter à la périphérie. Et le revenu disponible de Bruxelles est ici, c'est-à-dire à la hauteur du, PIB, du revenu disponible de l'ensemble de la Belgique. Et si vous connaissez Bruxelles, si vous faites tout le pourtour ouest-nord de Bruxelles, vous avez toutes les communes dans lesquelles se trouvent tous les immigrés, les Turcs, les Marocains, les gens qui ont très peu de revenus. La zone riche, c'est la zone de la Commission, en gros, et puis les communes, les anciennes communes francophones. Les communes pauvres, ce sont les communes néerlandophones, qui portent d'ailleurs des noms d'Anderlecht, de Molenbeek, de Schaarbeek, qui sont ces communes-là. C'est là où se trouvent. Donc, on a du mal à faire passer au niveau de la Commission, mais surtout au niveau des États membres, que les villes sont, certains morceaux des villes sont des morceaux pauvres, sur lesquels il faut prêter une attention. Qui plus est, si on suit par exemple des gens comme Davzi, dit l'argent, ça vient dans les villes, mais après, ça se répartit sur l'ensemble du territoire. On sait que les Niçois profitent du bonheur PIB de Paris, sans s'engager vraiment dans une production. Donc ça, c'est intéressant à réintroduire, pour si on veut aborder la question du développement de nos villes, nos quartiers, cette dimension. Les territoires pauvres sont au cœur des villes. Dire ça, par exemple, aujourd'hui, c'est encore pas considéré comme une parole orthodoxe. Autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est le positionnement de nos territoires et l'évolution de ces territoires. Dans le temps, j'ai fait figurer donc un territoire qui est relativement bien achalandé. Qu'est-ce qui lui arrive dans le temps ? Il commence à souffrir, ce qu'on a vu dans les années post-30 glorieuses concernant les grands ensembles. Ce n'est pas fini, il peut encore aller plus bas. Nos politiques, c'est quoi ? C'est essayer de faire quelque chose, soit des politiques de maintien, ce qu'on appelle les politiques cosmétiques, éviter que ça dégrade. On repeint les façades, on refait un peu de rue, quelques bancs. Ce qui peut se passer, si le territoire en question dégradé est suffisamment dégradé, mais d'une certaine qualité patrimoniale, c'est qu'il y ait des phénomènes de gentrification. Les bobos rachètent, et le quartier est avec éviction des populations. Réussir à remettre un territoire comme ça, ou à peu près au niveau dans l'espace de la hiérarchie des formes où il était il y a 30 ans, c'est un peu le défi de nos politiques. Bon, ça, je considère que c'est l'aversion qui est inscrite, notamment, dans tous les textes de la politique de la ville. Prendre des quartiers sensibles et les ramener en bonne position d'ailleurs. C'est la théorie, mais je me dis que d'une certaine façon, on passe peut-être à côté d'un sujet qui peut être plus essentiel. Oui, revenir. Oui, oui. Non, non, on ne va pas. on va pas retrouver le petit commerce de bouche en centre-ville. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est revenir à un niveau équivalent en termes de valeur. On pourrait prendre comme critère la valeur immobilière. Voilà, par exemple. Mais bon, c'est une des valeurs possibles. Ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, on passe sous silence le rôle de ces territoires-là, ceux-là ou ceux-là, dans le fonctionnement des villes. Moi, je me souviens toujours de la réflexion du maire de Grenoble, en tant que président de cette fameuse commission. Il me dit, une question de démolir un quartier, il me dit, oui, l'actuel. Il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? D'ailleurs, on est ancien collègue de combat politique. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut démolir? Je dis, tu vas faire une connerie. Ne démolis pas parce que on a besoin de ces territoires-là dans la ville. Alors, si tu es capable de le transférer à quelqu'un d'autre, à une autre commune, bravo. Mais je doute que tu y arrives. Mais il faut garder ces territoires parce que ce sont des territoires d'accueil et je crois qu'il faudrait insister beaucoup plus, si on veut travailler vraiment sur la question du développement soutenable, il faudrait travailler beaucoup plus sur le rôle de ces quartiers dans les villes. Il y a une partie de la population qui chute. Alors, j'ai fait un petit schéma, voilà. J'ai fait un petit schéma sur une ville. Voilà, vous avez des territoires que j'appelle de la cohésion. C'est ce qu'il faudra atteindre. Les gated communities, les quartiers qui s'enrichissent. Nos quartiers pauvres ou quartiers délaissés, avec les fameuses frontières. Qu'est-ce qui se passe en général? Bon, les gens ont plutôt envie de quitter. Ça peut se passer à partir des quartiers rouges ou noirs. Quitter, aller à l'extérieur, ou réémigrer, ou faire de la promotion résidentielle. Ça, c'est impossible. Deuxième possible, c'est que ces territoires-là accueillent et continuent d'accueillir la population qui vient de l'extérieur. Donc, vous voulez rentrer dans une ville, moi, l'enquête qu'on peut faire auprès d'un immigrant, c'est, il a dans la... Moi, je travaille sur un quartier, un vieux quartier de Grenoble, quartier central, qui est le quartier Trécloire, qui était le quartier de tout temps de l'immigration. Bien avant qu'on ait les immigrés de la campagne arrivaient à Grenoble par ici, c'est toujours le quartier de l'immigration. Et les gens qui arrivaient, par exemple, d'Algérie à Marseille, ils arrivaient à Marseille, ils n'avaient pas un papier avec marqué Grenoble. Il y avait marqué sur le papier Trécloître, quartier Trécloître, rue Trécloître. Ils débarquaient sur le port et ils étaient acheminés jusqu'à la rue Trécloître. Et ça continue de fonctionner comme ça. On peut voir que dans toutes nos villes, nous avions des quartiers qui... Oui. Il continue de sortir. Si vous prenez les dernières périodes de recensement, on va attendre le prochain recensement, mais 90-99, dans la plupart des quartiers, 50% de la population a quitté les quartiers. Ça, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte dans nos observatoires de ces quartiers-là. Qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers, en fait ? Pas suffisamment compte. Qu'est-ce qui se passe en fait? On a, moi, je serais tenté de dire, c'est pour ça qu'il faudrait faire vraiment un vrai travail de recherche là-dessus. Je serais tenté de dire que la politique de la ville, elle a parfaitement réussi. Parfaitement. Elle a fait de ces quartiers-là, sur lesquels on intervient là, elle en a fait des quartiers du recyclage. C'est-à-dire que les gens qui sont là, on leur a donné les moyens, on les a aidés à se sortir d'une certaine façon. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont du job, ils n'y restent pas. Ils vont à l'extérieur. Et donc, qui est-ce qui revient? Ceux qui n'ont pas de job. Ils disent, bah, ce quartier, il est fantastique. C'est le quartier de la réussite. Moi, je demande vraiment qu'on réfléchisse à ça. Je ne dis pas que j'ai raison, mais ça veut dire que la place et la fonction de ces quartiers, il faut le réévaluer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut peut-être continuer nos politiques qui sont mener de meilleures politiques, plus ajustées et tout ça dans ces quartiers, certainement. Mais aussi, il faut peut-être examiner comment on maîtrise un peu mieux ce qui s'y passe. Parce que toujours ramener des populations en difficulté et de plus en plus en difficulté avec des confrontations entre groupes de différentes origines, ça devient très difficile à gérer. il faut peut-être insister là-dessus, mais ce sont des quartiers qui ont peut-être permis des parcours résidentiels à l'extérieur. Il faudrait défendre ces quartiers pour ça.
Non, mais je partage tout à fait cette analyse. Hein? Sauf que le problème, c'est qu'on a une commande politique, notamment le programme de rénovation urbaine, c'est d'en faire des quartiers comme les autres, voilà, représentatifs, ouais, de l'ensemble, voilà, du territoire. Voilà. Et c'est toute la difficulté à dire.
Nous sommes dans des approches très normatives. Nous sommes dans des approches très normatives. Moi, j'ai entendu parler à une époque, le slogan, c'était « faire des quartiers comme les autres ». C'était à l'époque de la CNDSQ. Après, c'était « faire des quartiers, je ne sais pas quoi, des quartiers pour les élites, ou je ne sais pas quoi ». On peut raconter tout ce qu'on veut.
Et déjà dans ces quartiers où en plus les loyers de la République, enfin d'habitat, sont particulièrement bas. Et donc on a une fonction toujours d'accueil, mais qui n'est pas seulement d'accueil par rapport à l'extérieur.
Par rapport à l'intérieur de l'agglo, de l'agglo ou de la commune.
Ou de la région.
Oui, oui, oui. Oui. Non, mais c'est pour ça que moi je trouve qu'on devrait beaucoup plus insister dans nos débats et lancer un peu des controverses sur ces questions-là, parce que on n'y arrivera jamais à faire des quartiers comme les autres. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne fera pas des quartiers de bobos. Alors on peut faire des quartiers de bobos en disant ailleurs, dans d'autres communes, ou je ne sais pas où, sous les autoroutes, ou je ne sais pas quoi, on reconstruit des bidonvilles, oui. D'accord. Mais nous avons besoin de ces quartiers-là pour faire du recyclage de la ville. Sérieusement, moi, je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Alors, sujet de controverse divers, bon, je vous laisserai ça. Tout. Ça, je vais passer là-dessus. Ça, c'est... Ben, plutôt que de... C'est des quartiers qui se saisissent de populations en difficulté, de l'ensemble d'une région ou d'une agglomération, dans lequel on met en œuvre des politiques dites de recyclage. Ce qu'on met en place, la politique de la ville, c'est une politique de recyclage. On prend des gens, ils n'ont pas la formation, on essaie de les qualifier. Une fois qu'ils se trouvent un job, ils disent « Ciao les mecs, je me tire, je ne veux pas rester là ». Alors, on les forme. On les forme, et c'est un sas de la ville. Mais la ville a toujours eu ça. Toujours. Vous relisez Machiavel.
Et on est incité par les exonérations, etc.
Bien sûr. Hein? Moi, j'attends... Ouais. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura des perdants dans l'affaire. Il y a des gens qui vont rester, comme disent les Canadiens, les Québécois, ils vont rester tankés dans le quartier. Ils ne bougeront pas. Mais il ne faut pas penser que tankés. Mais oui. Non, mais il faut pas voir simplement ceux qui sont coincés. Historiquement, il y a toujours eu des gens coincés. Alors, on les a fait disparaître dans nos villes, dans les cœurs de ville, parce qu'on a un coup de rénovation urbaine et de restauration à coup de... où on a fait passer les mètres carrés à je ne sais plus combien, à 10 000, on a évacué tous ces gens-là. On les a renvoyés, effectivement, en banlieue. La ville de Paris a construit les 4 000. Ben justement,
c'est
ben, si vous avez vu les petits... Le dessin ovale. Non, mais le dessin ovale, là, c'est la représentation de la fameuse communauté au territoire de tout à l'heure. Il y a des lieux, des gens et des institutions là-dedans. Le petit pointillé autour, c'est le type de politique que nous mettons en œuvre. Alors, je ne rentre pas complètement dans le détail, j'ai essayé de l'aborder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des coopérations verticales, horizontales, il faut mobiliser des savoir-faire. Il faudrait rentrer plus dans le détail de chacune des politiques. Puis, on arrive à une limite sur une présentation synthétique générale. Il faudrait prendre chaque quartier. Tout à l'heure, on se racontait une histoire. Je discute à la COPEC, il y a 2 jours, sur la question de l'intégration des immigrés. On était 26 autour de la table, 15 femmes, 11 hommes. Je compte toujours ça, combien d'hommes, combien de femmes. Et c'était très intéressant parce qu'à un moment donné, il y a un représentant de la Chambre des métiers qui me dit, je vais vous parler de mon expérience, voilà le boulot qu'on fait, bon, je m'explique, voilà, on travaille avec des artisans pour embaucher des immigrés ou des handicapés. Donc. Non, et voilà. Tout ce que a traité la COPEC, le public COPEC. Il termine son exposé, puis les gens disent « Ah oui, mais comment vous faites ?» Et tout d'un coup, il lui vient une illumination, il dit « Ah mais attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. » Ce qui est très important, c'est que quand je travaille avec les artisans, c'est des petites entreprises, il y a 1 ou 2 salariés maximum, des très petites entreprises, il dit « Le gars qui est artisan, il se fait ses 60 heures, il n'a pas le temps, c'est la production, les ressources humaines, l'intégration d'un tel à un tel, il n'en a rien à cirer. » Pas son problème. Donc, comment faire passer une politique de type il faut mieux intégrer tel et un tel? Alors, il a eu l'idée géniale, parce que c'est vraiment un type du métier, de convoquer l'artisan et sa femme. Et il parle à sa femme et dit la politique d'intégration, c'est avec la femme que je gère ça. Et ça marche. Intéressant. Je trouve que, voilà, des politiques. Ça, c'est de l'astuce, quoi. C'est du flair, c'est. Je ne réponds pas complètement à la question, mais il faut prendre des cas d'espèce. Chaque cas est un cas à traiter particulièrement. Il y a des opportunités. Il y a, je ne sais pas, quand vous êtes touriste, vous voyez combien on est capable de vous prendre des euros dans la poche. Il y a des gens qui sont capables de faire ce que j'appelle, moi, des attracteurs, capteurs, accumulateurs, redistributeurs. Chaque petite boutique qui vous pique des euros, n'importe où vous allez, c'est génial. Ils ont senti qu'il y avait la mer, il y avait ça, que vous étiez fatigué, que vous aviez chaud, je ne sais pas, et paf, ils vous vendent, je ne sais pas quoi, un parapluie. Et vous prenez comme ombrelle, astucieux. Vous en avez 10 chez vous, de parapluie. Bon, il faut que je termine. Là, c'est, j'en viens aux femmes. Ah si, parce que ça, c'est directement importé d'Afrique. Je le présente assez souvent, mais je trouve que je travaille pas mal en Afrique, 15 ans au Mali, à faire des stratégies de développement sur trois secteurs. Enfin, au sein de la commune de Bamako, enfin du district de Bamako, la commune 1 de Bamako, Korofina Nord, pour ceux qui connaissent, une commune qui fait à peu près 150 000 à 200 000 habitants, 40 fonctionnaires municipaux ou salariés municipaux pour tout ça, vous voyez, en comptant le balayeur. Ils veulent faire plusieurs choses, l'eau, l'assainissement, la bouffe et les ordures ménagères, et troisième truc, la petite économie et l'épargne, donc ce qu'on appelle la tontine, ce qu'on a appelé plus tard la banque des pauvres. Eux, ils font ça depuis très longtemps. Donc, je rencontre, envoyé par la commission, je rencontre les élus qui venaient d'être élus, c'était en 90. Voilà. Il faut monter un projet, une stratégie de développement. Les élus, au bout de 5 jours, je ne les ai jamais vus, ils m'avaient prévu de faire une réunion. Heureusement, je tombe sur des chefs de quartier, des chefs de village. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je leur explique, toujours le même truc, on va faire ça. Je dis, mais pour faire ça, mon vieux, il ne faut pas travailler avec les élus. Jamais, jamais. On va te faire des réunions avec les femmes. Que dit, lui, il dit, c'est que les femmes qui bossent chez nous. Donc, on va te faire une réunion avec des femmes et tu vas. Et donc, j'ai fait un travail. Mais après, avec ça, j'ai pris le modèle de Polanyi, les 4 économies, j'en ai rajouté une. Alors, les 4 économies, c'est quoi? Polanyi, dans la grande transformation, parle de l'économie marchande. Il parle de l'économie de redistribution, l'économie de welfare. On a tous ça chez nous, l'économie marchande, elle est grosse comme ça, l'économie... Chez eux, elle est plutôt petite, et l'économie d'État-providence est petite. L'économie, alors ça c'est l'économie émergée, l'économie domestique, on en parle peu chez nous, mais elle est très importante en Afrique. L'économie solidaire, réciprocité, très importante. Et puis j'ai ajouté l'économie de braconnage. Hein ? Les tombées du camion et les autres trucs, qui est très importante en Afrique. On appellerait l'informel, l'illégal et tout ça. Et donc, cette économie-là, personne n'en parle, en général. Et dans nos quartiers, personne n'en parle. Si, on en parle comme anormal, délictueux, et c'est ce qui fait vivre beaucoup de familles. Donc, il faut en parler. Et ces économies, elles sont en relation les unes avec les autres. Maintenant, si je regarde qui fait quoi ? Alors, les hommes, ils sont dans l'économie marchande, en général, et dans l'économie de braconnage. Normal. Mais les femmes, elles sont dans les 5 économies. Et donc, si vous voulez faire du boulot de développement, il faut manipuler ces 5 économies. Et c'est le rôle clé des femmes. C'est vrai qu'en Afrique, mais c'est applicable directement dans nos quartiers. Moi, je l'applique partout, dans tous les quartiers européens. Hein. Ça marche. Enfin, ça marche. Ça existe. Ça renvoie à quelque chose. Reste à savoir, après, comment on bricole avec tout ça. Ah, mais qui vous dit que je ne les ai pas mis? Des fois, il faut que je les présente aux élus, je ne vais pas refaire le schéma. S'il y en a un qui me pose la question, s'ils me disent où est-ce qu'on est, nous. Voilà. Alors, j'ai fait ça, alors j'ai essayé de... Alors, non, ne regardez pas ça, mais j'ai essayé de faire deux choses. Vous allez voir apparaître la même matrice, mais ça vaudrait le coup qu'on y réfléchisse. Cette matrice-là, je l'ai faite en 91-92, quand il y avait une cellule auprès de Delors qui réfléchissait sur l'économie des quartiers, et il y a eu un bouquin qui est sorti qui s'appelait « Les 18 gisements d'emploi », qu'on a complètement oublié, qu'on devrait aller se replonger dedans, parce que c'est tout à fait intéressant aujourd'hui, parce que c'est toute l'économie non délocalisable. Et on s'aperçoit que ces 18 gisements d'emploi, en fait, c'est des gisements de bouclage de cycles. On a ouvert les cycles productifs, on a rejeté dans la nature, on a puisé. Là, ces économies-là, c'est toutes celles qui correspondent au bouclage, comment on reboucle nos cycles. Très intéressant, mais on a acheté ça au panier, je ne sais pas pourquoi. C'était publié en 1995, plus personne n'en parle. Donc, j'ai essayé de travailler sur ça et j'ai épondu cette matrice. Vous avez là l'intérieur des quartiers, l'extérieur, le reste de la zone urbaine est plus loin. Et puis j'ai mis les agents économiques classiques de la comptabilité. Hein, pour un économiste, vous avez le ménage, l'entreprise, les institutions financières, les administrations. Et puis j'ai croisé avec les ménages, les entreprises, les institutions financières, les administrations, et j'ai essayé de voir les échanges, comme un tableau d'échanges d'agents. C'est un grand classique de la comptabilité. De faire. Mais il y a des échanges aussi avec l'extérieur. Il y a de l'export ou il y a de l'import. Et quand vous voyez la matrice en noir, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges. Quand c'est en blanc, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc là, il y a beaucoup d'échanges de ménage à ménage. Il y a beaucoup d'échanges des administrations vers les ménages. Mais autrement, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Les échanges se passent plutôt à l'extérieur. Avec les 5 économies, j'ai fait le même... Alors, quelques années plus tard, j'ai fait la même matrice. Et là, j'ai mis économie marchande, économie de redistribution, économie solidaire, économie domestique, économie de braconnage. Et vous voyez que la matrice des quartiers, elle se noircit plus. Il y a beaucoup plus d'échanges quand on prend en compte ces économies-là. Si on prend le modèle classique des agents, il ne se passe rien dans les quartiers. C'est des quartiers où il n'y a rien. Si on prend le modèle des économies, les 5 économies dans l'économie de braconnage, il se passe des tas de choses dans les quartiers. Il y a des tas de flux. Si on avait la possibilité de faire de la comptabilité, on s'apercevrait que le PIB de ces quartiers est tout à fait extraordinaire. Donc, se méfier dans les analyses qu'on fait, des critères qu'on utilise, des catégories qu'on utilise, parce que on voit tout, on voit rien. Ou on voit beaucoup, en tout cas. Je vais terminer sur les... J'aurais des trucs à vous mettre sur l'Europe et tout ça, sur le monde, mais bon. Sur l'évaluation. Parce qu'on a des politiques dont on sait qu'on sait, on dit qu'on ne sait pas les évaluer. C'est vrai, quand il faut évaluer un pont ou une route goudronnée, on sait faire. Il n'y avait pas de route goudronnée, il y a une route goudronnée, c'est facile à évaluer. Encore qu'on n'est pas sûr de pouvoir mesurer l'épaisseur de goudron qu'on a mis. On a peut-être vendu 3 cm là où on n'en a livré qu'un centimètre. C'est comme ça qu'on a financé les partis politiques pendant toute une période. Si on prend un quartier, c'est un peu plus compliqué que faire une route ou un pont. Je prends un quartier qui va, dont la dérive prévue, c'est devenir un quartier complètement déclinant. Alors, ça, c'est ce qui est prévu. Nous sommes dans la représentation. Alors, par rapport à ce quartier en rouge, là, on m'a dit, attention, il va décliner, il faudrait faire un petit diagnostic. On fait un petit diagnostic qui est la RTN, la RT au temps N. Et on dit à partir de ce diagnostic que l'on fait, voilà, ça serait bien qu'on fasse un quartier comme ça. Il est très beau comme ça. Oui, je sais pas. C'était avant, hein. C'était avant Borloo et avant Boutin. Pendant qu'on fait tout ça et qu'on commence à travailler sur les quartiers se déplacent. Alors, manque de bol, et au lieu de décliner, il s'est revalorisé. C'est exceptionnel, mais bon, il s'est revalorisé. J'avais pas de place sur le schéma pour faire. Et là, au bout d'un certain temps, on me dit, mais attendez, vous avez fait une évaluation, là, une diagnostic de la situation, vous ne pouvez pas refaire une. Alors, je refais une, en disant, ben voilà, le diagnostic, je vous rends un rapport, voilà, c'est parfait, ça s'est amélioré. Donc, quand on fait une évaluation, on devrait faire ça. On devrait comparer la situation qu'on a ici à la situation de départ, à la situation qui aurait dû se produire, à la situation espérée, hein, et confronter cette situation espérée à la situation... En fait, quand on fait une évaluation, on se limite à faire ça, les traits en bleu, on ne fait que des confrontations de représentation. Vous faites la confrontation de la représentation prime à celle de départ, et puis à ce que vous espériez en disant « on a raté notre coup, c'est pas possible, on voulait faire ça et on obtient ça ». C'est ça nos évaluations. Donc, il y a du boulot sur la planche pour pouvoir faire ce type d'évaluation en rose qui montrerait, bon, voilà ce qu'on espérait, voilà ce qui est obtenu, et voilà ce... Bon, je vais vous passer quelques... Ah si, ça peut vous... Nos enjeux, parce que comme les Français sont très peu présents en Europe, même avec tout ce qu'on a fait à l'origine, les enjeux régionaux européens, il faut quand même qu'on se dépêche à aller faire quelque chose en Europe et puis ailleurs, hein. Je vous ai représenté l'Union européenne en vert, ce qui reste des Balkans qui n'a pas encore intégré, la Turquie, Israël, le Liban, là où ça chauffe, et puis là des territoires qui s'appellent, c'est les territoires de turcophones. Alors là, vous avez en violet, en violine, la zone des tempêtes. C'est la zone de l'eau qui va manquer et qui manque déjà. Vous avez les puits de pétrole, les ressources, hein, dont certaines s'épuisent, celle-là, là, la mer du Nord, celle-là bientôt, la Russie, la domination sur nous de tout ce qui se passe. Les zones de conflit à proximité de l'Europe, les zones de migration, les flux de migration vers nous, vers les villes, et le mur qu'on essaie de construire. Comment bloquer, hein, encore hier, c'était hier ou ce matin? Non, hier, la Commission a décidé de mettre en place 18 mois. Ce qui est intéressant, c'est les Balkans et c'est cette zone turcophone. On ne veut pas de la Turquie en Europe, sauf qu'il faut savoir que derrière la Turquie, il y a tout le monde turcophone, qui est un autre bouclier protecteur vers l'Est, et qui est notre principale zone d'alimentation en pétrole et en gaz si les Russes ont décidé de nous couper le robinet. Et ça, c'est quand même important de savoir ce qu'on fait en termes de géopolitique avec cette zone-là. C'est simplement pour vous dire les enjeux qui est autour de cette question européenne. C'est pas simplement ce qu'on en dit. Je crois qu'il y a ça qu'il faut avoir en tête. Et surtout, dans notre zone francophone méditerranéenne, là, nos anciennes colonies, en tous les cas, il y a certainement des choses à créer. Alors, ce n'est pas simplement l'initiative du président autour de la Méditerranée, il y a certainement, en tant que professionnel, à se lancer dans ce... De la même façon qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la zone des NEM, il y a un tissu urbain ancien, grands ensembles, tout à fait semblable à ce qu'on connaît et avec lequel, finalement, on sait assez bien faire, malgré ce qu'on en dit, et sur lequel on pourrait aller travailler et nouer des coopérations. Et moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire, parce que nos réseaux comme ceux-là, ils sont très bien, très sympathiques, dans un monde francophone, mais franco-français, il faut qu'on aille voir le monde francophone, et puis il faut qu'on aille voir les pays des NEM qui ont le souvenir, hein. Les Polonais se souviennent des Français, un peu moins bien depuis le traité de l'échec, où on les a traités de plombiers qui venaient de nous piquer notre plomb. Ils se souviennent très bien, le passé napoléonien, ils s'en souviennent, et c'était plutôt valorisant. Ils se disent, qu'est-ce que vous faites les Français, on ne vous voit pas. Alors si on voit les grandes surfaces qui se sont implantées en Pologne, il y a les grandes surfaces françaises, sont implantés partout en Pologne. Mais là, il y a vraiment des enjeux. Et je pense que si on se lançait dans ce type de travail et des réseaux, tout ce qu'on a, tout se passe, tous ces 20, 25 ans de politique de la ville, on aurait de quoi revoir autrement ce que nous faisons. Moi, j'ai toujours vu dans les quelques 25 ans de travail en Europe ou ailleurs, c'est pas, je ne deviens pas... Et une personne d'entre nous ne devient l'expert. Je ne suis pas un expert de la Pologne, de l'Allemagne, je ne connais rien à leur fonctionnement, véritablement. Mais je suis devenu un grand expert de la situation française. Parce que quand vous allez ailleurs, vous voyez votre situation française comme dans un miroir grossissant, en disant « Mais ce n'est pas possible qu'on continue de faire comme ça. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi ce qu'ils font ailleurs ?» On ne le fait pas. Moi, j'ai toujours ce petit réflexe. Tiens, ils font ça, c'est intéressant. Et je l'utilise comme un analyseur de la situation française. Je dis, pourquoi ça n'est pas possible en France? Et je vous dis, et je passe en revue tous les blocages. Donc, ça fonctionne comme un analyseur. Et donc, moi, je recommande qu'on participe plus pleinement à tous ces échanges. Hein. Dans l'Urbact ou dans d'autres qu'on en crée, hein, il y a plein de... Il faut y aller parce que c'est une capacité de retour sur soi. Comme disait un Québécois, puis je terminerai là-dessus... quand je suis revenu au pays, j'ai découvert un autre pays. C'est ailleurs qu'on se trouve. Ben voilà, c'est ailleurs qu'on se trouve. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup.